Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous êtes sur Radio Canu et vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique, tous les vendredis en direct depuis Radio Canu. Aujourd'hui, émission particulière, puisque nous recevons Robert Pédron, qui est membre de l'association des Rescapés de Montluc. Avec nous également, il y a Arnaud Gagnou, bonjour.
Bonjour.
Et Delphine Leroy, bonjour.
Bonjour.
Je vais céder tout de suite la parole à Robert Pédron qui va nous présenter l'association des Rescapés de Montluc. Robert Pédron, c'est à vous.
Bonjour, puisque j'ai oublié de le dire. Avant tout, je tiens à remercier Radio Canu et tout particulièrement Amandine Vincent, sa talentueuse animatrice, pour la tribune qui m'est offerte en ma qualité de représentant de l'association des Rescapés de Montluc. Je me nomme Robert Pédron. Je suis le fils aîné d'André Pédron, résistant arrêté par les Allemands le 19 octobre 1943 et interné à la prison de Montluc jusqu'au 7 juin 1944. Après un bref passage dans le camp de transit de Compiègne-Royallieu, près de Paris, mon père est déporté en Allemagne au camp de Neuengamme. Après de longs mois de travaux forcés exténuants, et dans des conditions inhumaines, il est totalement épuisé. Il échappe miraculeusement à la mort lorsque le camp d'extermination de Bergen-Belsen dans lequel il se trouve est libéré par l'armée britannique. C'est le 15 avril 1945, 18 mois après son arrestation. Mais bien que libéré, mon père, comme tant d'autres déportés, doit encore attendre 39 jours avant d'arriver en gare de Lille, où il pose enfin le pied sur le sol national, et ce n'est que le 28 mai 1945 qu'il retrouve les siens. Les étapes successives de son calvaire, il les relate dans le livre qu'il écrit dès son retour. Elles sont toutes plus éprouvantes les unes que les autres, mais sa détention dans la prison de Montluc y tient une place importante, notamment en raison de sa durée, 7 mois. Dont 55 jours de cellules ponctués de terribles interrogatoires. Les registres d'écrou tenus par l'occupant ont disparu. Mais on sait aujourd'hui que ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui, comme mon père, ont été détenues dans la prison de Montluc. 7 000 d'entre elles sont mortes. Durant leur détention, sous les tortures qui accompagnaient les interrogatoires de la Gestapo, fusillées ou durant leur déportation en Allemagne. Derrière ces chiffres, il y a autant de drames humains, de destins souvent héroïques, qui font de la prison de Montluc un lieu d'une importance exceptionnelle, un lieu de mémoire. Montluc est une prison militaire française lorsque les Allemands, le 11 novembre 1942, envahissent la zone sud de la France, la zone non occupée dans laquelle se trouve Lyon, Lyon capitale de la résistance. En quelques mois, l'administration de cette prison passe sous le contrôle de l'occupant, qui en fait le principal centre de détention administré par la Gestapo dans le sud-est du pays. Les nazis y incarcèrent par milliers des résistants, des communistes, des juifs, mais aussi de simples passants pris dans une des nombreuses rafles. Les conditions de détention dans cette prison ne cesse de se durcir pour atteindre le comble de l'horreur en 1944, lorsque, dans chacune des 120 cellules, sont entassés jusqu'à 8 détenus, sans couchage, sans toilette, sans hygiène aucune. Il faut préciser que chaque cellule mesure 2,10 m par 1,80 m, soit moins de 4 mètres carrés. Chaque détenu attend, dans une angoisse permanente, le moment où il sera appelé extrait de la cellule pour un nouvel interrogatoire ou tout simplement pour être fusillé. Le 21 août 1944, trois jours avant la libération de Lyon, une action héroïque d'un groupe de résistants FFI, les forces françaises de l'intérieur, libère les quelques 1000 détenus qui se trouvent encore dans la prison. Sans ce coup de force audacieux, ces détenus étaient promis à une mort certaine. Ils auraient subi le sort des centaines de malheureux fusillés au cours des semaines précédentes. Un certain nombre de ces miraculés se réunissent le 20 septembre 1944 et décident de constituer une association. Le 29 septembre, les statuts de l'association Les Rescapés de Montluc sont déposés en préfecture. Son objet est le maintien de la mémoire des disparus et l'aide matérielle et morale à leurs familles. L'association est souvent désignée par l'abréviation ARM, A-R-M. Bientôt, d'autres anciens détenus rejoignent l'association. C'est ce que font également, dès leur retour en 1945, les déportés qui ont survécu à l'horreur des camps de concentration et dont le calvaire avait commencé par leur internement à Montluc. Mon père est l'un d'eux. Aussitôt qu'il apprend l'existence de l'association, il s'empresse d'y adhérer. J'ai sous les yeux sa carte de membre adhérent, datée du 8 juin 1945, seulement 11 jours après son retour parmi nous. Ce court délai montre que c'est avec un enthousiasme que les épreuves n'ont pas altéré qu'il entend participer à la réalisation des buts que s'est fixé l'association. En l'an 2000, plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la prison de Montluc va être désaffectée, bientôt promise à la démolition. C'est alors que le 20 août 2000, l'ARME demande officiellement son classement comme monument historique. L'aboutissement de ces démarches a eu le mérite insigne de sauver ce lieu de mémoire. Réhabilitée, la prison de Montluc est aujourd'hui ouverte au public. Chacun peut la visiter et se recueillir dans l'une de ses sombres cellules. L'ARME célèbre cette année son 70e anniversaire. Elle a survécu à la majorité de ses fondateurs, hélas disparus. Cette pérennité est due à leurs descendants qui ont repris le flambeau. Forte aujourd'hui de que 200 membres, dont 29 anciens internés, l'association poursuit le devoir de mémoire qu'elle s'est assigné. C'est ainsi que, grâce au dévouement de ses bénévoles, elle a déjà réuni les informations et les photos qui permettent de constituer les dossiers retraçant le parcours de 3350 internés. Elle projette d'éditer un ouvrage relatant l'histoire de la prison de Montluc, illustré des portraits de tous les internés pour lesquels elle a pu constituer un dossier. Vous pouvez aider l'ARME dans cette tâche en lui apportant toutes informations et toutes photos d'époque concernant une personne qui a été détenue à Montluc. Faites parvenir vos envois à M. Bruno Permezel. Alors je répète, Permezel, P-E-R-M-E-Z-E-L. Monsieur Bruno Permezel, président de l'association des rescapés de Montluc, 11 rue Laurent Vibert, Lyon 6e, 11 rue Laurent Vibert, 69006 Lyon. Mais mon exposé ne serait pas complet si j'omettais de mentionner qu'un film est en cours de réalisation en vue de commémorer le 70e anniversaire de la libération de la prison de Montluc. Ce film rassemble de nombreux témoignages émouvants.
Merci, merci Robert Pédron, beaucoup. Déjà d'être là et de nous présenter le travail de cette association qui a maintenant 70 ans et dont le but est, comme vous l'avez compris, de garder la mémoire de ceux qui ont souffert à l'intérieur de ces murs et qui ont été également déportés. Je rebondis sur le nom de Bruno Permezel, puisque Bruno Permezel est également éditeur, et il a édité l'ouvrage de votre père, qui s'intitule Matricule F 34900 de Montluc à Belzen, dont on vous lira un plusieurs extraits après une petite courte pause musicale. Et il a également édité votre livre à vous, Robert Pédron, qui s'intitule Avec mes yeux d'enfant, témoignage d'un fils de résistant déporté. Et c'est votre regard que vous portez sur 6 années qui vont à la fois précéder la guerre et qui vont être pendant cette guerre. Et le combat d'une famille qui va être éclatée et qui va réussir à se retrouver à la fin de ces années noires, comme vous les appelez dans ce livre. Avant de lire des extraits du livre de votre papa, je propose à nos auditeurs de faire une petite pause musicale. Je vous ai préparé un morceau du film qui s'appelle La Liste de Schindler, et c'est un très très beau morceau, je vous laisse écouter. Vous êtes toujours sur Radio Canu avec le théâtre de la Gamelle. Tout de suite, on va vous proposer la lecture de ce livre, Matricule F 34900 de Montluc à Belzène. Malheureusement, comme on n'a pas énormément de temps, on peut pas vous faire une lecture complète. Du coup, cette lecture débute après l'arrestation, au premier moment où André Pédron et son associé Henri, qui est arrêté le même jour, sont confrontés pour la toute première fois à la Gestapo. Je laisse donc la parole à Arnaud Gagnou.
Nous sommes en octobre 1943, lorsque nous débouchons avenue Berthelot, c'est la tombée de la nuit. Les fenêtres s'éclairent et évoquent pour moi les intérieurs douillets et confortables. Je ne peux m'empêcher de penser que, en ce moment, une soupière fumante attend sur une table, quelque part dans une petite maison, et qu'une femme et 3 enfants commencent à s'étonner de mon retard. Allons, il faut être fort. Ne nous attendrissons pas. D'ailleurs, nous arrivons devant l'école de santé militaire, siège de la Gestapo, temple de la torture, de sinistre renommée, et j'avoue que mon appréhension redouble. Nous grimpons immédiatement 2 étages. On sent que l'on est chez eux. Les coups de poing et coups de pied commencent à pleuvoir, accompagnés de cris proférés dans cette langue allemande dont je ne comprends pas encore un mot. On nous pousse dans un bureau. 2 jeunes filles tapent à la machine et font à peine attention à nous. Elles ont l'habitude. Interrogatoire d'identité. En ce qui me concerne, tout se passe normalement. Il n'en est pas de même pour mon compagnon.
Religion ?
Catholique.
Une claque retentissante suit cette réponse pourtant banale.
Ne nous raconte pas d'histoire. Tu es juif. Cela se voit bien.
Le pauvre homme est tellement stupéfait, lui qui est un pur arien, qu'il n'a pas le réflexe de nier tout de suite. Alors, en présence de ces demoiselles qui rient à gorge déployée, le policier interprète lui donne l'ordre d'exhiber la preuve qu'il n'a pas été baptisé dans une synagogue. Je reverrai toujours la honte de cet homme de 44 ans qui, par la suite, devait subir exactement le même sort que moi et qui, pourtant, ne leur avait rien fait. Ils l'ont d'ailleurs admis quelques jours après, mais ils ne lui pardonneront pas de ne pas m'avoir dénoncé. Premier contact avec la morale nazie qui doit servir de base à l'Europe nouvelle.
La cellule 69. Me voici en prison. J'ai l'impression que mon gardien n'en finit pas de fermer les verrous. 4 murs blanchis à la chaux, absolument nus, le sol en béton. En face de la porte, à une hauteur inaccessible pour un homme, une petite fenêtre munie de 7 barreaux. Dans le coin à gauche, une petite porte en fer. Je l'ouvre. C'est un placard occupé par un seau qui servira de tinette. Enfin, sous la fenêtre, une paillasse dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 3 cm. Par la suite, en me basant sur la longueur de mes chaussures, j'ai mesuré la cellule, 2,10 m sur 1,80 m. J'ai évalué la hauteur à 3 mètres environ, ce qui représente à peu près 12 mètres cubes. Juste ce qu'il faut pour un homme. Nous vivrons jusqu'à 7 dans ce réduit. Je suis seule pour l'instant, dans un silence absolu, propice aux réflexions, et Dieu sait si les miennes sont amères. Mon sort ne fait pas de doute pour moi, mais je songe à ma famille qui a été, jusqu'à présent, ma seule raison de vivre, mon unique but, et je pèse mes responsabilités. Mais la France n'est-elle pas aussi ma famille? Si elle meurt, on reste sous la botte, ce qui revient au même. Que deviendront ma femme et mes enfants? La vie dans ces conditions, sans liberté, ne serait plus possible pour eux qui en sont épris autant que moi-même. Tout bien pesé, il ne faut donc rien regretter et faire face à cette épreuve, la conscience tranquille. Je n'ai aucune notion de l'heure. Je m'étends sur mon grabat, tout habillé, sans couverture. Non pas que j'ai l'intention de dormir, je sais que je ne le pourrai pas, mais je n'ai rien d'autre à faire. À peine suis-je couchée que le bruit des verrous me fait sursauter. On ouvre ma cellule. Que va-t-on faire de moi à cette heure? Est-ce la fin? Dans l'ombre, je distingue une silhouette. Un homme grand, convenablement vêtu, en chapeau mou, entre. Nous nous regardons. J'attends. Je crois fermement qu'il s'agit d'un inspecteur qui vient pour m'interroger. Cependant, il ne dit rien. Il a l'air soucieux. Je me hasarde à lui demander « Vous êtes venu me poser des questions ?» Il me regarde ahuri, puis m'apprend enfin qu'il a été arrêté dans l'après-midi dans son magasin d'articles de TSF et qu'il ne sait pas pourquoi. Je suis heureux d'avoir un compagnon. Je fais de mon mieux pour le rassurer, lui disant qu'il s'agit certainement d'une erreur et qu'il va être libéré le lendemain. On ne doute de rien quand on est bleu. Nous partageons la paillasse, c'est-à-dire que nous la mettons en travers et la réservons pour notre dos, les jambes sur le ciment, mais nous ne trouvons pas le sommeil. De temps à autre, quelque chose nous tombe sur la figure. À tâtons, nous cherchons avec le doigt de quoi il s'agit. Cela est mou et s'écrase, et aussitôt une odeur caractéristique nous renseigne. Ce sont des punaises. Dès que le jour pénètre par la fenêtre, nous inspectons les murs et le plafond. Cela grouille. Alors commence une chasse méthodique. Encore une distraction inattendue, et il y a de quoi faire. Mon camarade monte sur mes épaules pour mieux les atteindre. Nous sommes très occupés à ce travail lorsque nous entendrons les portes des cellules s'ouvrir une à une. Notre tour arrive. Un soldat nous glisse une gamelle pour deux, pleine d'un liquide noir et tiède. Il paraît que c'est du café. Nous en buvons quelques gorgées car nous avons soif. Malheureusement, la gamelle a servi hier soir à la distribution de la soupe et n'a pas été lavée. L'odeur de graillon nous soulève le cœur et nous jetons ce qui reste dans le seau. Quelques instants après, la cellule s'ouvre à nouveau et le Feldwebel prononce mon nom suivi de « Polizei ». Je vais donc être interrogée. Dans la cour, il y a déjà d'autres détenus, toujours distants les uns des autres, silencieux et immobiles. Après une attente assez longue, une camionnette nous conduit avenue Berthelot.
Là, nous sommes parqués dans une cave comprenant plusieurs compartiments. Tous sont complets. Des malheureux sont debout, d'autres assis, mais tous sont tournés face au mur, de sorte qu'ils ne peuvent voir arriver les gardiens ou les policiers qui seront trop heureux de les frapper s'ils les surprennent en train de parler. Je subis le sort commun. Et comme toutes les chaises sont occupées, je dois rester debout, les mains derrière le dos. Quelle n'est pas ma surprise de reconnaître en mon voisin de droite un de mes vieux camarades. Et je comprends immédiatement pourquoi je suis là. Sans tourner la tête, à voix basse, je lui glisse un bonjour furtif. Dans quel état ils l'ont mis? Il a le visage tuméfié, un pansement à la mâchoire, et il se tient sur sa chaise dans une position qui indique assez les souffrances qu'il endure.
Il ne faut pas me dire bonjour, j'en suis indigne. C'est moi qui t'ai donné, je n'ai pas tenu le coup.
Mon pauvre vieux, je ne t'en veux pas. Ils doivent avoir des moyens irrésistibles.
Si tu savais ce qu'ils m'ont fait. Mon dos n'est qu'une plaie et je ne peux plus marcher. Mes pieds sont brûlés. Et dire que cela va recommencer tout à l'heure.
et nous attendons. Oh, cette attente, cette immobilité pendant des heures et des heures, malgré l'appréhension, on souhaite y passer tout de suite pour être débarrassé. Et pourtant, des hurlements déchirants arrivent à nos oreilles, des cris de bêtes inhumains. Nos nerfs sont à bout. J'attends ainsi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, soit 7 heures consécutives, et ce supplice n'est qu'un commencement. J'entre dans la même pièce que la veille et ce sont les mêmes policiers. La cravache est sur le bureau, bien en évidence. L'un des tortionnaires, avec un rire guttural, me la passe sur le nez pendant que l'interprète me dit
« J'espère que tu vas être raisonnable. Tu sais que nous avons les moyens de te faire parler. »
Alors commence l'interrogatoire qui durera jusqu'à 6 heures du soir. Au début, ils essaient la persuasion. M'offrent même des cigarettes, me font de la morale. J'ai été victime d'une bande d'aventuriers à la solde des juifs. J'ai été vendue. Je n'ai donc pas de raison d'avoir des scrupules. Si je suis bien sage, je serai libérée. D'ailleurs, ils savent tout. Mon dénonciateur a tout dit. Ce dernier argument est classique. Il cherche toujours à dresser les uns contre les autres, les inculpés d'une même affaire, de façon à provoquer la vengeance. Je fais observer, sur un ton peut-être un peu ironique, que dans ces conditions, je n'ai rien à dire puisqu'ils sont déjà renseignés. La première méthode n'a pas réussi. Il va employer la deuxième, les arguments frappants.
Enlève ta chemise.
Je dois me mettre à plat ventre, sur un tabouret de bois. Les coups de cravache me cinglent du cou jusqu'au mollet. 5 jours de suite, je suis allée à l'interrogatoire. C'est évidemment très pénible, mais j'ai acquis la conviction que la plupart de ceux qui parlent le font avant d'être suppliciés, par appréhension. Dès que les coups ont commencé, la rage, la haine et l'orgueil soutiennent la volonté et les résultats obtenus sont minimes. Cependant, je dois dire que beaucoup de camarades ont eu à subir des supplices beaucoup plus durs que ceux que j'ai endurés moi-même. Et il est difficile de juger celui qui ne résiste pas. Tous les tempéraments ne s'accommodent pas de ces traitements horribles. Il est regrettable de constater que ceux qui ont eu la malchance de tomber entre les mains des miliciens et autres traîtres français, recrutés parmi la plus basse pègre, ont eu beaucoup plus à se plaindre que ceux qui étaient torturés directement par les Allemands. J'ai vu des hommes, et même des femmes, absolument admirables. J'ai vu une jeune fille de 18 ans devenir folle de douleur, pendue par les mains, sans avoir prononcé un mot. Elle chantait de toute la force de ses jeunes poumons, et il n'est pas possible de décrire à quel point ce chant faisait mal. J'ai connu un professeur au Collège de France, brûlé au dernier degré. Il avait subi le supplice de la baignoire. Le professeur en question avait reçu de l'eau un peu trop chaude. Il est mort devant nous, dans des souffrances inouïes, sans avoir proféré une plainte, en gardant son secret. J'ai vu de mes yeux des femmes dont les extrémités des seins étaient coupées. Il faudrait un volume pour décrire toutes ces atrocités commises, la plupart du temps par sadisme, quelquefois sur des personnes ramassées, dans les rafles et qui n'avaient rien à dire.
Thank you.
transport d'esclaves vers l'exil. Nous voici en gare. Un long train de marchandises est là, formé par des wagons à bestiaux. 40 hommes, 8 chevaux en long. À intervalles réguliers, il y a plusieurs wagons plateaux, dont un à l'arrière muni de projecteurs et de mitrailleuses. Sur le côté gauche, je remarque que toutes les portes sont fermées et verrouillées par de solides fils de fer munis de plomb. Nous attendons pendant une heure, avançant petit à petit, toujours rangés par 5. Enfin, c'est notre tour. Un sous-officier compte 24 rangées et nous mène jusqu'à une voiture où il faut monter très vite. Déjà, les coups de trique pleuvent comme pour embarquer du bétail. Nous serons donc 120 dans cet espace restreint, où seule une petite fenêtre grillagée de 80 cm de long sur 20 cm de large laisse passer la lumière et l'air. Impossible de s'asseoir. Un vieux bidon à essence dont le fond a été enlevé se trouve dans un coin. Un soldat interprète monte et nous lit une communication du commandant supérieur.
Premièrement, inutile de risquer l'évasion. Les sentinelles ont l'ordre de faire usage de leurs armes. Deuxième, dans les précédents convois, quelques prisonniers ayant réussi à s'enfuir, leurs camarades restés dans les wagons ont été fusillés à titre de représailles. Troisièmement, dans le cas où l'on découvrirait en cours de route une voiture détériorée, tous les occupants seraient parqués avec leurs camarades du wagon voisin et tous seraient astreints à continuer le voyage nus.
Sans doute, pour atténuer la rigueur de son exposé, l'interprète nous souhaite bonne chance et, aussitôt qu'il est descendu, on ferme la porte et nous entendons les fils de fer que l'on tord et les plombs que l'on pince.
La soif. Nous sommes plongés dans une semi-obscurité. Avant de partir, nous avons touché une boule de pain et un gros morceau de saucisson. Plutôt pour tromper leur attente que par besoin de manger, la plupart des camarades mordent dans cette boule et dans ce saucisson qui est, paraît-il, très bon mais un peu salé. Il y a un enfant de 17 ans que je connais bien, Jean-Pierre. Il dévore comme on peut le... Il dévore comme on peut le faire à son âge. Je lui rappelle que nous sommes prévenus. Ces provisions doivent durer 4 jours et il ne faut plus compter sur les secours de la Croix-Rouge. Mais il ne veut rien entendre et engloutit tout. Le train n'a pas encore démarré et déjà, Jean-Pierre manifeste le désir de boire, ce qui a pour effet immédiat de communiquer l'envie à d'autres. Un titi méridional qui cherche vainement à tourner tout en plaisanterie s'approche de la lucarne et interpelle une sentinelle avec un accent cocasse.
Trinkenbitte!
À boire, s'il vous plaît. Un rire diabolique répond. Celui-là sait ce qui nous attend. Il doit être midi à peu près lorsque le convoi se met en marche. Il fait de plus en plus chaud. Le soleil radieux de ce dimanche 4 juin, qui devrait uniquement procurer du bonheur aux hommes, a transformé notre wagon en un four roulant où l'on étouffe. Déjà, chacun essaie de se glisser vers l'unique ouverture, mais il n'y a pas assez de place pour tous. On échange des propos aigres doux. Quelques-uns, malgré le peu d'espace, s'assoient sur le plancher, le dos appuyé à la paroi du wagon, et bientôt les 4 côtés sont occupés ainsi. Mais nous sommes 120 et les 2/3 sont encore debout. Alors la lutte pour une petite place commence, qui se termine dans une lutte de tous contre tous. J'ai juste une place pour mes pieds joints, et chaotés comme nous le sommes, cette position en équilibre est extrêmement pénible. Je n'ose pas manger. Tous ceux qui l'ont fait ont soif, et se demandent quand ils pourront boire un peu d'eau. Jean-Pierre souffre visiblement. Quelquefois, le train ralentit son allure au point de rouler à la vitesse d'un homme au pas. C'est que toutes les gares ont été durement bombardées. Quelquefois aussi, il s'arrête et les sentinelles descendent sur le quai pour visiter les wagons. Lorsque l'un de nous demande à boire, elle rit ou hausse les épaules. Cela devient angoissant. À Lagny, un arrêt prolongé. Notre wagon se trouve vers la passerelle. Les gens regardent horrifiés la petite lucarne, mais ne s'arrêtent pas. Cependant, sans se lasser, le titi méridional demande à boire à tout le monde. Je reverrai toujours ces hommes à la tête fiévreuse, appuyés contre le grillage, le regard suppliant et demandant ce qui est le moins rare du monde, un peu d'eau. Enfin, une brave femme, qui a moins peur que les autres, vient vers nous avec un broc. Mais le problème consiste maintenant à faire passer cette eau à travers les mailles fines du grillage et nous n'avons pas de récipient. Alors un homme, qui assistait de loin à cette scène, voyant que les sentinelles laissent faire, court chercher un tuyau de caoutchouc, probablement un tuyau d'arrosage, monte sur les tampons, se fait passer le broc qu'il élève au-dessus du niveau de la fenêtre et fait siphon. L'eau coule. Il n'y en aura pas pour tout le monde, et pour ces hommes, une seule chose compte pour l'instant. Ils ont soif. Et chacun se rue comme une bête vers ce petit morceau de caoutchouc. C'est la panique. Comme je n'ai pas mangé, j'éprouve moins que d'autres le désir de boire, et pendant que tous se précipitaient à l'eau, je me suis assis le long du wagon, à un endroit laissé libre. L'ancien occupant me réclame ça. Place. Je la lui refuse, arguant que je suis restée debout depuis le matin et que j'ai besoin, comme lui, de me reposer. Nous nous disputons et, m'empoignant par le cou, il me fait lever de force. Je me défends du mieux que je peux, mais il est plus fort que moi et il parvient à s'asseoir. Les autres n'ont même pas fait attention à nous. Ils regardent cette scène d'un air indifférent. Tout ce qui n'est pas eux, leur soif, leur personne ne les intéresse pas. Et le train repart. Le soleil doit se coucher, car il fait de plus en plus sombre. Bientôt ce sera la nuit totale, sans la moindre lumière dans ce four où les hommes grouillent. L'obscurité favorise encore l'effort. Ils sont déjà assis, ils étendent leurs jambes petit à petit. Enfin, c'est leur corps qui est complètement allongé. Des disputes, des batailles dans le noir. On frappe quelqu'un à tâtons simplement parce qu'il essaie de se coucher. C'est toujours le plus fort qui l'emporte. Il a bu, il dort. Il peut récupérer. Mais le faible s'en ressort, s'affaiblit davantage. La première nuit se passe ainsi. Je n'en puis plus. Lorsque le jour qui se lève me permet de distinguer les silhouettes, j'avise un homme qui dort profondément et j'exige sa place. Je parviens à la lui arracher. Insensiblement, comme les autres, l'animal qui dormait en moi s'est réveillé et l'instinct de conservation efface tous les sentiments qui font la dignité humaine.
Deuxième journée, plus pénible, plus chaude que la première. Nous avons soif maintenant et je n'ai plus du tout envie de toucher à cette boule de pain qui est encore intacte. Jean-Pierre a joint ses mains en forme de godet et a bu son urine. À un médecin de Tours, à les yeux hagards, il a déjà la physionomie d'un dément. Un homme, à cheveux blancs, d'une soixantaine d'années, est affalé dans un coin, le menton sur la poitrine. Il émet une plainte lancinante, cadencée, qui porte sur les nerfs. Personne ne sait ce qu'il a, personne ne s'occupe de lui, si ce n'est pour lui dire de se taire en termes injurieux ou même pour le frapper. Le bidon à essence est plein depuis longtemps. Il déborde et des hommes sont assis ou couchés au milieu de cette pourriture. L'odeur nous suffoque. Vers la tombée de la nuit, le médecin paraît de plus en plus fou. Il pousse par instants des cris perçants et se met à rire. Personne ne lui dit rien, mais il prend à partie quiconque le regarde. Nous avons tous peur de la nuit qui vient, du sommeil qui nous gagne. Le vieux se plaint toujours, mais sa plainte est de plus en plus faible. Le lendemain matin, il s'est tu. Ses souffrances sont terminées pour toujours.
On touche au fil de fer. La porte s'ouvre. Deux Allemands montent dans le wagon, un officier de la Wehrmacht et un sous-officier SS. Celui-ci, avec sa casquette de côté, a l'air d'un voyou. Il tient une cravache à la main.
Tout le monde d'un seul côté du wagon !
Il a aboyé cet ordre dans sa langue maternelle et comme la plupart d'entre nous n'a pas compris, aussitôt il lève la cravache et frappe, frappe n'importe où, dans le tas. C'est la bousculade, les uns tombent sur les autres et il frappe toujours, il semble éprouver du plaisir. Ce doit être une bonne méthode car ce qui nous paraissait impossible s'est réalisé. 118 hommes se tiennent dans un espace prévu pour 20. Le mort est resté à sa place. Quant au médecin, Il se tient dans un coin, regardant de ses yeux immenses sortis de leurs orbites et ne bouge pas. Le SS est blanc de colère. Il va vers lui et vocifère toujours en allemand. L'autre se met à pousser son cri que nous connaissons trop. Alors, sans pitié, le SS sort son revolver et l'abat comme un chien d'une balle dans la tête. Puis, il avance vers nous, comme s'il venait de faire un geste banal, et avisant le premier qui se trouve devant lui, lui assène un grand coup de cravache et l'envoie brutalement du côté vide, en comptant.
Ein.
C'est ensuite le tour d'un deuxième ponctué d'un autre coup de cravache et d'un...
Zwei.
Lorsqu'il a terminé, il a distribué 118 coups de cravache. Il doit être rassasié. Il signe un papier que l'officier lui présente et tous deux descendent. On referme la porte, c'est la frontière. Nous sommes maintenant entre les mains des SS. Encore un arrêt. Nous n'y faisons plus attention. Mais cette fois, la porte s'ouvre. Le sous-officier SS qui monte dans le wagon a un recul involontaire. Il suffoque.
Alles raus!
Tout le monde dehors. J'ai retrouvé mes jambes. Je ne croyais plus que cela arriverait. Au fur et à mesure que nous descendons, on nous fait mettre par cinq pour nous compter. Il faut bien réceptionner la marchandise. Deux fous et trois morts. Nous n'avions même pas fait attention aux deux derniers. Les chiens montrent leur croc, ils paraissent aussi féroces que leur maître. Le vent souffle, mais il me semble que je n'aurai jamais assez d'air. Nous sommes sur un embranchement particulier. Je regarde le paysage, d'un côté de la voie, des plaines, de l'autre, des barbelés et des miradors. C'est le camp de concentration de Neuengamme.
Un camp de concentration. Entourés par les SS, les chiens au talon, nous marchons assez longtemps entre la voie de chemin de fer et les barbelés. Cependant, dès la porte franchie, les sentinelles SS nous quittent. Nous sommes maintenant commandés par des hommes habillés de vêtements civils. Tous sont marqués dans le dos par une croix de Saint-André, peinte en jaune sur le veston. Ils ont une autre croix, plus petite, sur le côté droit du pantalon et deux rayures verticales devant, une de chaque côté de la veste. Et sur la poitrine, à gauche, un numéro imprimé en noir sur un rectangle de tissu blanc. Ce sont des prisonniers comme nous. Mais pourquoi nous mènent-ils si durement? Ils hurlent des ordres, bousculent sans ménagement les camarades qui ne sont pas alignés à leur idée, et l'un d'eux gratifie même d'une série de claques un de mes voisins qui s'était assis, vaincu par la fatigue. Il y en a un, entre autres, qui paraît être un chef supérieur. Je peux lire son numéro. 2624. Il porte au bras droit un brassard noir avec ses deux lettres blanches. L. L'homme au brassard, L.A., n'est autre que le chef de camp, Lagerhaltester. Neuengamme, situé à une vingtaine de kilomètres d'Hambourg, est un camp prévu pour les prisonniers de droit commun. Il y a également quelques détenus politiques. Toutes les nationalités sont représentées. Russes et polonais en majorité, allemands, tchèques, hongrois, norvégiens, yougoslaves, grecs, hollandais, belges, français. Ces derniers sont d'ailleurs les moins nombreux. Il paraît que nous allons toucher de la soupe vers 7 heures. Cela ne va pas tarder. En effet, des hommes à brassard viennent et nous font aligner pour sortir. Comme il s'agit de manger, tous veulent passer les premiers, et il s'ensuit un embouteillage à la porte. Les préposés à l'ordre ont au fait de nous faire rentrer dans le rang. Le gourdin frappe, cogne, toujours au hasard. On entend des cris de douleur. Nous n'arrivons pas à comprendre comment des prisonniers peuvent agir de cette façon avec leurs frères de misère. Cela nous dépasse. En interrogeant les uns et les autres, nous demandons comment cela s'est passé dans leur wagon. Partout des malades, des fous, des morts. Quel est le chiffre des victimes? Nous ne l'avons jamais su. Mais ce qui est certain, c'est que les fous sont entrés à l'infirmerie en arrivant et n'en sont jamais ressortis. Une piqûre les a guéris. Le grand Reich ne s'embarrasse pas d'inutile.
Cependant, une équipe de coiffeurs munis de tondeuses a installé des tabourets près de l'entrée. Nous allons être tondus. Un interprète traduit les ordres que vient de donner un capot. Se déshabiller complètement, vider ses poches, enlever éventuellement tous les bijoux, bracelets, bagues, y compris les alliances. J'obéis et j'attends. Un homme passe devant moi et me met autour du cou une ficelle tenant une petite plaque rectangulaire portant un numéro. 34 900. Tout ce qui m'appartient est mis dans un grand sac de papier sur lequel l'homme inscrit ce chiffre. Nu comme un ver, le crâne rasé, dépouillé de tout, j'éprouve physiquement la sensation qu'on vient de m'enlever toute personnalité. À partir de ce moment, je suis un numéro et c'est tout. Plus rien ne me distingue de ces hommes qui attendent en file indienne pour entrer dans la salle voisine. Je suis la file. J'entre dans une salle de douche, mais avant d'aller me placer sous un jet, je dois encore me faire débarrasser de tous les poils superflus qui subsistent sur mon corps. Nous sortons de la salle de douche par une petite porte où deux Allemands nous visitent méticuleusement et s'assurent que nous n'avons rien dissimulé sur nous. Sans tenir compte de notre taille, on nous donne alors une chemise, un caleçon, un pantalon, une veste et des sabots de bois. Lorsque nous arrivons au bloc numéro 9, où nous sommes affectés, mon impression est assez bonne. Ici, tout est propre et bien tenu. Le plancher a été lavé. Dans un coin, un petit bureau, de grandes tables avec des bancs de chaque côté meublent la moitié de la baraque. L'autre moitié est occupée par des rangées de chalits à 3 étages. Il y a 270 chalits. Et nous sommes 650. Nous devons donc coucher à 3 dans un chalet de 90 cm de largeur. La fatigue compense ce manque de confort. La pendule du bloc marque 2 heures et le réveil a lieu à 4h30. La journée du lendemain se passe en formalités de toutes sortes. Il faut aller faire coudre nos numéros, se faire inscrire au bloc. Nous faisons connaissance avec notre chef de bloc, un triangle vert que l'on nomme Willy. Il y a 12 ans qu'il est au camp. C'est un Allemand petit et sec. Ses yeux de chien méchant, enfoncés dans leur orbite, n'ont rien de rassurant. Il est secondé par 2 Studentwienst, polonais, Alex et Marianne, qui sont là également depuis plusieurs années. Ils ont fatalement subi la déformation du bagne et sont devenus de sombres brutes. Ces hommes ne conçoivent plus que l'on puisse obéir sans la crainte perpétuelle de la trique. Aussi, il ne s'en sépare jamais.
Le travail dans la joie. Un matin, nous partons vers un endroit du camp, tout encombré de ferrailles sous la conduite d'un capot. Il y a là des rails, des tôles, des roues, des pièces de camion et surtout de vieux wagonnets hors d'usage. Le capot avise une benne de wagonnets dont le châssis et les roues ont été enlevés. Il choisit 4 hommes et nous fait signe de porter cette benne. Nous prenons chacun un coin. C'est très lourd, mais nous parvenons à le déplacer. Alors le capot se met en colère et distribuant des coups de bâton, il ordonne de la retourner sans dessus-dessous, de façon à prendre chacun un coin sur l'épaule. Cela ne paraît pas possible. Si encore il avait choisi 4 hommes de même taille, mais mes compagnons sont plus petits que moi et de hauteurs différentes. Enfin, rassemblant tous nos forces, nous chargeons l'appareil. Toutefois, 50 mètres plus loin, nous sommes dans l'obligation de le poser, non seulement à cause du poids, mais parce que le fer nous coupe l'épaule, ce qui devient insupportable. Nous recevons une volée de coups de trique par le capot qui écume de rage et appelle un SS qui se trouve dans les parages. Celui-ci s'en donne à cœur joie et sous les coups, nous rechargeons la benne et continuons notre chemin. Nous avons fait ainsi 800 mètres au cours duquel j'ai cru mourir de fatigue et de douleur. Nous étions dépassés par des camarades un peu plus favorisés que nous, qui étaient 6 au lieu de 4 pour porter des bennes moins lourdes. Par contre, j'ai vu un pauvre vieux qui était chargé de porter une paire de roues avec leur essieu. Il avait commencé par les faire rouler, ce qui allait beaucoup plus vite. Mais un SS qu'il avait vu prétendait l'obliger à porter le tout sur ses épaules. Après l'avoir bien frappé, il avait dû abandonner, car il n'avait pas pu lui-même soulever les roues pour aider le vieux à les charger. Jusqu'à 6 heures du soir ce jour-là, nous avons fait du transport de ferraille dans les mêmes conditions. Nous avons demandé la permission de boire en passant devant une fontaine. Cette permission nous a été refusée. Le soir, nous ne pouvions plus nous traîner pour rentrer au camp. Et il y avait encore l'appel, pourvu que cela ne dure pas trop longtemps. Mais on nous réservait encore une surprise.
Aussitôt l'appel terminé, le chef de camp ordonne le rassemblement de tout l'effectif sur la place, par nationalité. Que se passe-t-il encore ? Conduits par notre chef de bloc, nous allons toujours au pas nous placer avec les autres Français. La manœuvre est assez longue. Il faut former un carré, laissant un espace libre au milieu de la place, occupé pour l'instant par l'orchestre qui continue à jouer des marches militaires. Mes pieds sont en feu, mes épaules me font mal, mes vêtements collent à ma peau, je suis fourbu et j'ai faim. Qu'attend-on maintenant ? Mais voici que la musique s'étue. Des hommes amènent une grande potence avec des cordes, des crochets et tout un attirail d'exécution. L'appareil est vite monté. C'est un exercice qui doit se répéter souvent. Devant la potence, le commandant SS, accompagné de plusieurs officiers, est à la place d'honneur. Le Lageraltester arrive ensuite, suivi de 6 prisonniers, menottes aux mains et encadrés par des soldats. Un speaker lit la sentence en allemand. Puis les interprètes traduisent, chacun dans leur langue. Le français annonce.
Les 6 prisonniers russes qui sont devant vous ont profité qu'ils travaillaient dans un commando d'extérieur pour tenter de s'échapper. En conséquence, et conformément au règlement, ils vont être pendus devant vous.
Les 6 russes montent sur l'escabeau et le chef de camp leur passe la corde autour du cou. Tous ont une attitude courageuse, sauf un très jeune qui crie et implore ses bourreaux. Le commandant rit. Alors le chef de camp, un prisonnier comme nous, comme ceux qui vont mourir, se présente au garde-à-vous devant les officiers, se découvre et, ayant reçu l'ordre, il va à la potence et tire le système de trappe. Après quoi il revient vers l'officier et recommence la même comédie, claque les talons et enlève son béret. Déjà, les 6 malheureux tirent la langue et prennent une teinte livide. C'est un spectacle affreux. Je ne pense plus à ma fatigue. Il y a un pendu qui gesticule à la façon de ces marionnettes qu'on montre dans les fêtes et qui font des gestes désordonnés. Et ceci n'est pas le plus horrible à voir. Le commandant rit comme un dément, car cette danse macabre l'amuse. Ses lèvres découvrent ses longues dents. Ses yeux ont des reflets de cruauté et de sadisme. Pendant une semaine, j'ai vu chaque nuit, dans mes cauchemars, ce rire insensé, ce rire de soudard prussien qui s'approchait vers moi et me réveillait en sursaut. L'exécution terminée, la musique reprend et enfin tout le monde se disperse. Il est 8h du soir. Depuis 4h30 ce matin, nous sommes debout.
Buchenbelsen, le camp de la mort. Il fait nuit lorsque nous apercevons les premiers miradors. Et au clair de lune, nous pouvons lire sur les baraques le long de la route bloc 45, bloc 46. C'est le camp de Buchenbelsen. À notre descente du camion, des prisonniers à brassard nous prennent délibérément tout ce que nous avons dans les mains. On nous conduit à travers le camp et nous sommes étonnés de voir partout des corps allongés sur le sol. Il ne fait pourtant pas très chaud. Nous arrivons au bloc 24. Le Polonais qui nous a conduits nous dit que nous ne devons pas nous en éloigner. Et comme nous lui demandons où nous allons dormir, il nous montre la terre et nous répond « là ». Nous sommes trois bons camarades qui ne nous sommes pas quittés depuis Porta et sans trop savoir pourquoi, nous éprouvons plus que jamais le besoin de nous serrer les coudes. Auguste est un savoyard solide qui n'aime pas parler pour ne rien dire. Il a horreur des mots inutiles, mais il agit. Il a un moral d'acier et prétend que tous les problèmes ont une solution. Il la cherche. Henri, lui, est un capitaine de réserve ultra-patriote, très pieux, un peu rêveur, toujours prêt à rendre service. Sa femme est également dans un camp de concentration et il ne sait pas ce que sont devenus leurs deux enfants. Nous nous concertons. Nous n'avons pas de couverture et un petit vent frais souffle. Nous hésitons à nous étendre. Auparavant, nous nous promenons aux alentours sans nous quitter, car des hommes, véritables squelettes, rôdent autour de nous d'une façon inquiétante. Parmi les corps étendus, un homme nu. Je m'approche. Mon sang se glace. L'homme a le ventre ouvert. Le cœur, le foie, les reins ont été enlevés. Ceux qui sont à côté de lui sont également des cadavres. Nous n'avons plus du tout envie de dormir. Nous allons de l'autre côté du bloc et nous nous trouvons devant un mur de cadavres d'une hauteur d'1,50 m. 6 sur 10 ont le crâne fracassé et la cervelle enlevée. Vision inoubliable que tous ces squelettes aux yeux fixes, ces chairs en décomposition auxquelles la lune donne des reflets verdâtres. La nuit se passe ainsi. Nous ne parlons pas. Il y a des moments où les mots n'ont plus de sens. Nous n'en aurions pas trouvé d'assez fort pour exprimer notre horreur. Nous avons essayé d'entrer dans le bloc, mais une odeur écœurante nous a fait reculer. Cependant, les hommes qui sont étendus là, à l'intérieur, ne sont pas tous morts, puisque nous entendons des cris, des plaintes, des gémissements ininterrompus. Il y en a que l'on tue pour prendre leur place. Le jour nous surprend endormis assis sur une grosse pierre. Le froid du matin nous réveille. Le ciel est pur. Le soleil va paraître. Peut-être pourrons-nous profiter de ces rayons pour dormir un peu dans la journée, car les nuits sont trop froides. Nous nous mettons à la recherche d'anciens qui pourraient nous renseigner sur ce camp de la mort. Mais tous les Français à qui nous nous adressons, et qui sont d'ailleurs très peu nombreux, sont arrivés 2 ou 3 jours avant nous. Il n'y a pas d'anciens ici. Nous commençons à nous habituer à avoir des cadavres. Il n'y a que cela. Il faut les enjamber pour circuler. Entre les corps, des tas d'excréments et d'ordures de toutes sortes, on a de la difficulté à trouver une place propre pour s'asseoir ou pour s'allonger. Au milieu de ces immondices, par-ci, par-là, un groupe d'hommes est réuni autour d'un feu. Les Russes ont cassé des chalits, des bancs, des tabourets et ils font cuire dans des vieilles boîtes de conserve, des viscères humains. Nous comprenons que si notre séjour à Belzen doit se prolonger, nous n'en sortirons pas. Heureusement, nous entendons nettement les canonnades derrière le camp. C'est une question de course. Mais arriveront-ils à temps? Vers 5 heures du soir, grande effervescence. On emmène un bouteillon de soupe. En effet, nous devons toucher théoriquement 1/4 litre par jour, d'après ce que nous avons entendu dire. Le chef de bloc essaie de nous faire mettre en ordre, mais les hommes sont déchaînés, ils ont faim. La loi du plus fort reprend ses droits. On se bat, on se piétine. Ceux qui parviennent à se faire servir doivent se sauver pour manger, car ils sont assaillis immédiatement par une meute de sauvages. Je remarque que certains, les plus robustes, qui ont encore la force de se battre, passent plusieurs fois. Il reste encore 1/4 de l'effectif à servir et le bouteillon est vide. Le chef de bloc fait un geste d'impuissance. ce sera pour demain. Et demain, ce seront les mêmes qui mangeront, du fait même qu'ils ont mangé aujourd'hui et qu'ils seront plus forts que nous, alors que notre faiblesse nous permettra encore moins de lutter contre eux. Nous sommes là tous les trois. Henri se plaint de ses pieds qui sont enflés. Il devrait s'allonger, mais la nuit vient. Alors Auguste, toujours silencieux, se lève, disparaît, et deux minutes après revient avec deux couvertures. Où les a-t-il trouvées ? Mystère. Il ne faut jamais demander à Auguste où il s'est procuré quelque chose. Bien serrés, les uns contre les autres, nous nous installons de notre mieux et nous avons tant sommeil que nous nous endormons sans tarder. Tout à coup, je sens les couvertures tirer brutalement. Aussitôt, je me lève pour courir après notre voleur, mais Auguste, qui n'a pas bougé, me dit de son ton flegmatique « Te fatigue pas. » En effet, l'homme courait, mais il avait les mains vides, car les couvertures étaient attachées par une ficelle au poignet d'Auguste, qui, une fois de plus, avait tout prévu. La faim commence à nous faire sérieusement souffrir. Nous n'en parlons pas. À quoi bon ? Mes forces m'abandonnent de plus en plus. Le jeûne de 7 jours pendant le transport, la dysenterie m'ont abattu et il faut m'aider pour me lever lorsque je suis assis sur le sol. Mes deux camarades sont un peu plus forts que moi, mais nous n'avons plus la force de rester debout longtemps et nous n'essayons même plus de faire la queue pour toucher la soupe. D'ailleurs, nous ne perdons pas grand-chose. Cela représente quelques cuillerées d'eau mélangées à de la farine de marron d'Inde et les éternels rutabaga. Nous sommes maintenant couverts de poux. Il ne peut être question de les détruire car ils grouillent partout, sur nos vêtements, sur les couvertures, sur le sol. La soif s'en mêle. Il n'y a pas d'eau dans le camp. Une mare pleine de vases exhale des odeurs fétides et c'est dans cette mare que puisent ceux qui mangent de la chair humaine pour faire bouillir les foies, les cœurs, les reins et les cervelles qu'ils arrachent aux cadavres. D'autres boivent cette eau qui contient tous les germes de maladie et c'est ainsi que le typhus fait des ravages. Chaque matin, 15 cadavres sont sortis du bloc et mis en tas. Dehors, ils n'ont plus que la peau et les os. Parmi les corps étendus à terre, on ne reconnaît plus les morts des vivants, tellement ceux-ci sont décharnés.
La nuit, surtout, on a des visions hallucinantes. Un homme se lève et, dans l'ombre, on voit se dessiner une silhouette où les clavicules pointent, l'abdomen est inexistant. Les os du bassin sont soutenus par deux minces fuseaux où les rotules se dessinent un renflement. C'est la mort qui rôde, elle est partout. On n'est même plus étonné de découvrir, le matin, le corps froid d'un camarade que l'on a quitté la veille. Comme si la maladie et la faim ne suffisaient pas, les SS et leurs abjects serviteurs exterminent encore. Le lendemain de notre arrivée, 60 prisonniers descendent d'un camion. Ils sont restés 3 jours sans manger. Pour une raison inconnue, ils se sont révoltés en cours de route contre leur capot, qui faisait partie du convoi, et n'avaient dû son salut qu'à l'intervention des sentinelles. En arrivant à Belsen, il signale le fait aux SS. Alors, 4 soldats, aidés par 2 prisonniers, choisissent 15 hommes parmi les 60 arrivants, les font mettre à genoux et devant leurs camarades horrifiés, les frappent à coups de bâton jusqu'à ce que mort s'en suive, à titre d'exemple. 15 cadavres de plus, et dans quel état ? Je n'ai pas pu assister à cette scène, je me suis sauvé, bouchant mes oreilles de mes 2 mains pour ne pas entendre les hurlements de ces malheureux, mais... je les entends encore. On écoute avec angoisse la canonnade qui se fait entendre maintenant de chaque côté du camp, à l'est et à l'ouest. Nous en concluons qu'ils avancent toujours, pourvu qu'ils fassent vite. Un soir, le chef de bloc fait rassembler tout le monde. Nous croyons qu'il s'agit de la soupe et nous ne bougeons pas. Mais cette fois, c'est obligatoire. Des coups de pied et des coups de cravache nous le font comprendre rapidement. Seuls ceux qui sont mourants ou morts restent là. On nous conduit près de l'entrée du camp, devant un grand bâtiment en maçonnerie qui paraît inoccupé. Aussitôt, des nouvelles fantaisistes circulent. On va nous changer de bloc. Les alliés arrivent. On ne veut pas qu'ils nous trouvent dans cet état. Hélas, à peine la porte du bloc est-elle ouverte que l'espoir s'évanouit. Sur 3 épaisseurs, toute la surface du bâtiment est couverte de cadavres. Par équipe de 2, nous devons traîner ces cadavres jusqu'à un endroit déterminé. Henri est avec moi. Comme les autres, nous déchirons une vieille couverture pour fabriquer chacun une corde et nous attachons nos cordes aux 2 pieds. Puis, tenant l'autre extrémité sur l'épaule, nous tirons notre macabre fardeau. Nous ne savons pas où nous allons, nous suivons le funèbre cortège. Auguste est derrière nous, il fait équipe avec un jeune Belge qui pleure et dit qu'il n'en peut plus, qu'il préfère être traîné lui aussi. Nous l'encourageons en lui disant que nous n'allons peut-être pas loin, qu'une fois arrivés dans la grande allée centrale, des camions seront là et que notre corvée sera terminée. Mais l'allée centrale de ce camp immense offre un spectacle inouï. Sur une longueur de 1500 mètres et sur une largeur de 8, une armée de cadavres est en marche. Tous les hommes qui peuvent encore se tenir debout ont été pris pour cette corvée monstre. Et il s'agit bien d'une armée de cadavres, car ceux qui traînent ne valent guère mieux que ceux qui sont traînés. Tous les 100 mètres, un SS, revolver au poing, surveille, et malheur à celui qui ne peut continuer sa route. De temps en temps, un coup de feu claque, encore un qu'il faudra remorquer. Il nous faut tendre à l'extrême tout ce qui nous reste d'énergie. Derrière nous, le Belge flanche. Nous n'avons même plus la force en réserve pour l'encourager. Mais Auguste, qui n'a toujours rien dit, tire pour deux. Et malgré son impassibilité, je mesure à ses yeux l'intensité de son effort surhumain. Il fait presque nuit. Nous bifurquons sur la gauche et nous traversons un terrain vague. C'est encore plus pénible car le corps ne glisse pas. Enfin, nous arrivons devant une grande fosse de 30 mètres au carré. Et nous faisons basculer la dépouille de notre camarade inconnu dans ce trou béant, à moitié plein de chair humaine. Qui était-il ? Était-ce un Russe, un Polonais, un Hollandais ? Avait-il une mère, une femme, des enfants ? Qui pourra leur dire qu'il repose en paix dans cet immense charnier ?
La nuit est complète maintenant. Nous rejoignons notre bloc sous la conduite d'un capot. Par moments, la lune se cache derrière un gros nuage, pourvu que la pluie ne s'en mêle pas. Et cela nous rappelle que nous avons été obligés de laisser nos deux couvertures que nous portions toujours avec nous. Auguste va-t-il encore sauver la situation ? Il est parti en reconnaissance, probablement pour trouver d'autres couvertures. Quelques minutes se passent, puis il revient et nous fait signe de le suivre. De l'autre côté des barbelés, un autre bloc, semblable au nôtre, a été évacué depuis peu de temps et semble inhabité pour l'instant. Mais dans le mirador qui se trouve entre les deux blocs, des sentinelles veillent. Nous arrivons à un endroit assez éloigné du mirador et où les barbelés ont été écartés suffisamment pour laisser passer un homme à plat ventre. Toujours sous la conduite d'Auguste, nous attendons que la lune soit masquée par un nuage et au moment propice, nous rampons. Les 50 mètres qui nous séparent de notre but nous paraissent longs. Mais nous franchissons sans encombre la porte du bloc 28. À tâtons, nous avançons sans faire de bruit, comme si on pouvait nous entendre. Nous nous couchons chacun dans un lit, avec une paillasse et deux couvertures. Je pourrais dire que je m'écroule, car je suis à la limite de mes forces. Aussi j'apprécie ce confort. Je ne sais ce qui se passera demain, mais pour ce soir, Auguste a bien mérité de l'équipe. J'étais si fatiguée qu'il fait grand jour lorsque j'ouvre les yeux. Mes deux compagnons sont réveillés et écoutent, l'oreille tendue. Henri me fait signe d'en faire autant en me disant
« Entends-tu les FM ?»«
Tu crois ? Et alors ?»«
Alors mon vieux, cette fois, ce ne sont plus leurs canons que nous entendons. Ce sont eux. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Courage. »«
Du courage. J'en ai encore. Mais ce sont des forces qu'il me faudrait pour me lever. » Et je n'en ai pas. L'engourdissement me gagne. Je n'ai même plus faim. Je ne souffre pas. Les ressorts sont cassés, voilà tout. Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant ? En plein jour, il ne faut pas y compter. Et même si je n'avais rien à craindre des sentinelles, je ne pourrais plus faire cette gymnastique.
Et pourquoi ne resterions-nous pas ici ? Il n'y a aucun contrôle au bloc. Si encore on avait une chance d'y trouver quelque chose à manger.
Auguste, qui fait attention à tout, appelle Henri et lui montre par une fenêtre le mirador le plus proche. Les deux sentinelles SS qui s'y trouvaient encore hier n'y sont plus. Ce sont des soldats en kaki qui les remplacent et ces soldats sont munis d'un brassard blanc. En face, à notre bloc, l'animation règne, les hommes gesticulent. Henri n'y tient plus. Il prétend que les SS se sont sauvés et ont mis à leur place des soldats neutres, hongrois ou roumains, qui sont chargés d'assurer la police pendant la période de transition, jusqu'à l'arrivée des alliés. Il veut aller voir ce qui se passe. Malgré nos avertissements, il part. Quelques coups de feu claquent, mais il réussit à passer. Nous pensons qu'il attendra la nuit pour revenir. Une heure après, il est de retour. Ce qu'il avait dit était vrai, en partie. Il reste très peu de SS et ils portent tous le brassard blanc, comme ceux que nous avons vus et qui sont bien des soldats hongrois.
Libération. La suite de ce récit m'a été contée par mon ami Auguste, car à partir de ce moment, j'ai perdu la notion des choses. Si je n'avais pas eu la chance d'avoir un ami fidèle, je serais actuellement dans une fosse à Belsen. Henri avait pris pour jeu de faire la navette entre notre refuge et le bloc 24. Il aimait le danger pour le danger et se consolait ainsi de ce qui lui faisait le plus de peine, ne pas combattre comme un vrai soldat qu'il était, avec un vrai fusil. Deux jours après, il a été tué net d'une balle dans la nuque par une sentinelle hongroise. Je pense qu'il est heureux ainsi. Il est mort au champ d'honneur. Le dimanche 15 avril, une grosse voiture munie de haut-parleurs est entrée dans le camp. Elle a annoncé que nous étions délivrés par l'armée britannique et que, dès le lendemain, nous serions ravitaillés. En attendant, nous étions libres dans le camp, à la seule condition de ne pas en sortir. Aussitôt, les barbelés séparant les blocs ont été rompus et tous se sont rués sur les cuisines où les rutabaga, les betteraves, la farine ont été pillées. Il restait les silos de pommes de terre. Il faut croire qu'il y avait des stocks puisque pendant 3 jours et 3 nuits, tout le monde a puisé dedans. Auguste, à lui seul, a fait une provision de 40 kilos. Il en a fait cuire quelques-unes qu'il a soigneusement écrasées, puis il a commencé à m'alimenter petit à petit.
France, c'est la nuit. Mais une belle nuit de printemps, comme il n'y en a que chez nous. Nous voyageons depuis 9 jours. Nous ne sommes pas encore bien solides, mais nous ne sentons pas la fatigue. Le train entre en gare de Lille. Aidés par des scouts qui sont venus à notre rencontre, nous mettons enfin le pied sur le sol du pays. Déjà, on nous invite à rejoindre le car qui va nous conduire au centre d'accueil. Nous avons les jambes coupées par l'émotion. Mon inséparable Auguste est à côté de moi. Il sort une cigarette de sa poche et pour cacher son trouble, il me dit
« Donne-moi du feu ».
En approchant mon mégot, je vois briller dans l'œil de cet homme si peu expansif une grosse larme. Vous êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle pour Radio Canu. Vous venez d'entendre la lecture du récit qu'a écrit André Pédron à son retour du camp de Bergen-Belsen, qui s'intitule Matricule F34900 de Montluc à Belsen, édité chez BGA Permuzel. Voilà, ce récit est poignant. Une histoire parmi tant d'autres, malheureusement. Et je tiens à rappeler, comme me le dit son fils qui est ici avec nous présents, Robert Pédron, qu'après cette libération, ils sont restés tout de même 39 jours à l'intérieur du camp sans pouvoir en sortir avant d'être rapatriés et qu'ils ont été rapatriés dans les mêmes conditions dans lesquelles ils sont arrivés dans ces camps. Voilà, je pense que c'est important de le préciser. D'ailleurs, Robert, vous me disiez tout à l'heure que peut-être il y aurait un ouvrage sur ces 39 jours où il est resté dans ce camp après la libération. Je vous laisse la parole.
Oui, effectivement, j'ai retrouvé dans des papiers que mon père avait laissés, en déménageant à l'appartement qu'il avait occupé, j'ai trouvé un carnet qu'il s'est procuré dès le lendemain de la libération du camp de Bergen-Belsen. Il a un carnet sur lequel donc il a tenu un journal entre ce jour de la libération et le jour où il est arrivé en France. Et c'est un récit absolument extraordinaire où jour après jour, presque heure après heure, il explique comment il a à nouveau dû survivre alors que beaucoup d'autres continuaient à mourir, puisque sur les détenus, sur les déportés qui se trouvaient dans le camp de Bergen-Belsen lorsque l'armée britannique l'a libéré, les deux tiers sont morts avant d'avoir été rapatriés. Après leur libération, ils sont morts. Et mon père a fait partie des rares survivants. Et donc, je pense pouvoir publier dans un proche avenir le contenu complet, exhaustif de ce carnet, qui par ailleurs comporte un certain nombre d'autres informations, toutes plus intéressantes et plus poignantes les unes que les autres.
Oui, j'imagine bien. On suivra ça chez nous à Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle. Donc malheureusement, j'ai pas le temps de parler de votre ouvrage à vous, qui s'intitule, je répète, Avec mes yeux d'enfant, témoignage d'un fils de résistant déporté. C'est un témoignage assez rare, puisque c'est assez rare d'avoir un témoignage d'un enfant et de son regard sur la guerre. Moi, ça m'aurait beaucoup intéressé. Malheureusement, on a déjà débordé. Je rappelle simplement que ces ouvrages, on peut les trouver
au CHRD, le centre de l'histoire de la résidence, de la résistance et de la déportation, qui se trouve
avenue Berthelot,
là où était donc l'école de santé militaire, le siège de la Gestapo. Maintenant, c'est un musée de la résistance, dans lequel justement il y a entre autres une librairie où on peut se procurer ces différents ouvrages et bien d'autres d'ailleurs qui se rapportent à cette période.
Oui, parce que moi j'en ai lu d'autres aussi quand j'ai rencontré Bruno Permezel, qui, je le rappelle, le monsieur qui s'occupe de l'association des rescapés de Montluc, puisqu'il s'agissait aujourd'hui d'accueillir cette association des rescapés de Montluc qui milite pour la mémoire de ces personnes qui ont été incarcérées, hommes et femmes, à l'intérieur de la prison de Montluc, mais également ceux qui ont été déportés, de toutes ces personnes qui ont résisté pendant l'occupation nazie. Voilà, donc je les remercie énormément. Ils n'ont malheureusement pas pu venir aujourd'hui, mais c'est Robert Pédron, avec beaucoup de plaisir pour moi, qui est venu les représenter. Voilà, on va donc bientôt se quitter.
C'est moi qui dois remercier Amandine Vincent et Radio Canu de m'avoir reçu et de m'avoir offert cette tribune.
Et je remercie également énormément Arnaud Gagnou et Delphine Leroy qui ont participé à cette lecture. On se retrouve donc comme d'habitude tous les vendredis, c'est vendredi prochain. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce sera un travail autour de Sarah Ken. Donc c'est tout autre chose. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.
Tronchard.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardaires, snobles.
Journal vivant, revue de politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.